Alors, tout à l'heure, Sabrina Rivet nous résumait les propos du docteur Arruda aujourd'hui, qui a fait un point de presse à Longueuil. Il se promène un peu partout à travers le Québec. Aujourd'hui, 89 nouveaux cas, 19 décès de la COVID. Les nouvelles sont quand même... Bon, on a hâte d'arriver à zéro, mais c'est quand même les nouvelles relativement rassurantes. Et il faisait remarquer qu'il y avait quand même un relâchement qu'il observait, qu'il l'inquiétait, parce qu'il faut vraiment se souvenir qu'une deuxième vague est possible. Alors, le docteur Horacio Arruda dit que le Québec vit en ce moment une période charnière dans la lutte contre le coronavirus. Et puis, pendant ce temps-là, bien, l'Organisation mondiale de la santé exhorte les pays touchés par le coronavirus donc à se réveiller et à engager le combat, puisque les chiffres ne mentent pas. Le docteur Carl Weiss, que vous connaissez bien, microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal, a accepté de nous parler. Docteur Weiss, bonjour.
Bonjour, Marie-Claude.
Alors, Marie-Claude et Carl, tiens, ça va être Carl avec, ouais. avec votre permission. Carl, êtes-vous un observateur découragé en ce moment?
Non, je ne me décourage jamais. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que on est tombé un petit peu dans ce que j'appellerais la fatigue du COVID-19, c'est-à-dire qu'après des mois de confinement, psychologiquement, beaucoup de gens sont plus très prêts à suivre toutes les mesures, ce qui est un peu malheureux. Et il y a aussi le fait que toutes sortes d'informations circulent sur la planète par les réseaux sociaux, l'Internet, etc., et qui proviennent de toutes sortes de pays. Donc, il y a des données contradictoires, il y a des gens qui sont, pour des raisons philosophiques, politiques, sociologiques, ce qu'on veut, contre le port du masque. Et puis, tout ça mis ensemble fait que fatigue COVID, discussions, débats sur toutes sortes d'idées. Et puis aussi, il y a eu toutes les hésitations qu'on a eues au Québec par rapport au port du masque universel, la façon dont les choses ont été gérées à certains moments, qui fait que tout mis ensemble, peut-être que les gens sont aujourd'hui beaucoup moins disciplinés. Et puis, ils ont aussi le sentiment au Québec qu'on est arrivé à la fin de la première vague, ce qui est vrai, puisque le nombre de cas diminue, mais il n'est pas nul. Et comme vous l'avez bien dit, le nombre de décès est malheureusement pas nul non plus. On parle de 19, 20 décès. Il faut pas oublier que quand on était rendu à 100 décès, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est quand même pas anodin non plus comparé à d'autres endroits sur la planète. Donc, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on se retrouve avec peut-être une situation, c'est l'été, il fait beau et les gens ont envie de faire autre chose que de mettre des masques et de la distanciation physique.
Et pourtant, c'est assez simple comme directive et c'est assez salvateur aussi pour la suite des choses. Je lisais aujourd'hui qu'un enfant de 11 ans en Floride avait succombé à la COVID. Le virus est-il en train de muter? Puisque au début, on disait que ça ne touchait vraiment pas beaucoup les jeunes, très, très peu. Et là, aux États-Unis, ce qu'on remarque depuis les dernières semaines, c'est que les cas les plus nombreux sont genre dans la vingtaine, trentaine.
Oui, alors il faut faire attention, le nombre de cas est très important chez les plus jeunes, on va dire les gens en bas de 20 ans, puis le groupe des 20-30 ans également, parce que justement en Floride ou en Arizona ou au Texas, mais surtout en Floride, les gens ont décidé d'aller à ce que j'appellerais le déconfinement extrême, c'est-à-dire d'aller volontairement dans des plages où il y a des agrégats qui se forment, des fêtes, etc. On a même entendu des gens qui disaient qu'il y avait des parties pour essayer de voir qui allait attraper la COVID le premier. Donc, ça montre, c'est un peu l'extrême.
Ah, ils faisaient des paris. Ils faisaient des paris, Carl. Et celui qui attrapait la COVID le premier gagnait le pot.
C'est ça, exactement. Donc, il y a une certaine insouciance. Maintenant, c'est sûr que les plus jeunes ont peu de chances de tomber très malades. C'est malheureux quand il y a un décès. Il faut voir aussi si ce sont des enfants ou des jeunes adolescents qui ont des problèmes de santé sous-jacents ou qui ont des maladies particulières. Donc, mais sur le nombre total, je vous dirais, de cas qu'il y a en Floride ou aux États-Unis, le nombre de décès parmi la population jeune est encore relativement très faible, sauf si, évidemment, on est en face de gens qui ont soit des problèmes de santé ou des facteurs de risque, comme par exemple l'obésité est un facteur de risque important pour la sévérité de la maladie. Ceci étant dit, c'est surtout le fait que plus on va avoir de cas, évidemment, plus éventuellement ça risque de toucher des personnes plus âgées, donc des contacts de tous ces jeunes-là. Et là, à un certain moment, il risque d'avoir des complications plus importantes. Mais on parle beaucoup des États-Unis, mais il y a aussi beaucoup d'autres pays où c'est un problème actuellement et on n'a pas de données. Ce qu'il faut dire avec les États-Unis, c'est que les données sont très fiables. Donc, au moins, ça, c'est important. Mais il y a beaucoup de pays, y compris des pays d'Asie ou de l'Amérique du Sud, des pays d'Afrique, du Moyen-Orient, l'Inde, le Pakistan, où le nombre de cas est probablement très, très élevé et peut-être possiblement le nombre de décès, mais les chiffres ne sont pas très, très fiables. Je vous dirais, le seul avantage de ces pays-là, par contre, c'est leur démographie. Ce sont des pays avec des pyramides des âges jeunes. Et donc, statistiquement, il y a moins de chances d'avoir des décès dans ces pays-là.
C'est juste. En conférence de presse, M. Arruda, Dr. Arruda aussi, indiquait que tous les travailleurs en CHSLD se verraient offrir un test de dépistage par semaine pour contrôler les éclosions. Ça vous apparaît une bonne solution?
Ben, écoutez, l'idée, c'est qu'il faut tester les gens. Est-ce que c'est une bonne solution? Il faudra le voir. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on a des cas, il faut tester massivement et il faut mettre en place, nous, à l'Association des médecins microbiologistes, ça fait très longtemps qu'on avait poussé pour avoir des tests à peu près partout à la grandeur du Québec et donc ce qui a été fait après avoir mis de la pression à certains moments et ce qui est très bien maintenant parce que les gens ont pu mettre en place cette capacité de test. Là, il va falloir mettre rapidement en place les tests de sérologie. Là encore, on est en retard.
Juste pour donc, les auditeurs, pour préciser, Carl, test de sérologie, c'est pour savoir si on l'a eu.
C'est ça. C'est pour voir si on a déjà fait si on a des anticorps.
Oui.
Alors,
oui,
c'est pas un test de détection. C'est pas un passeport d'immunité non plus, comme certains gens ont pu lire. C'est-à-dire, j'ai des anticorps, donc après moi, le déluge, je peux faire ce que je veux puisque je suis protégé, donc j'ai plus à m'inquiéter. Non. Mais c'est pour avoir une idée de toute la dynamique de l'épidémiologie. Quel est le pourcentage de gens qui a déjà été infectés ou comment? Et de suivre éventuellement ces gens-là, etc. Donc, il y a des avantages à faire ça. Mais c'est clair que les CHSLD et la seconde vague, s'il y en a une en général, la préparation devrait être très différente de la première au Québec pour qu'on n'ait pas à connaître
l'horreur.
L'horreur et le désastre qui est arrivé.
Avant de se laisser, Carl, je me demandais, si un matin, moi, je me réveille cet été, j'ai mal à la tête, je suis pas bien, je me sens un petit peu fiévreuse, je vais où pour passer un test rapidement?
Bon, alors la façon la plus rapide de passer un test, évidemment, c'est de passer par les urgences, parce que si on pense qu'on a la COVID, le système dans les urgences, la plupart d'entre elles en tout cas, ont un système qui permet soit de dépister les gens à l'urgence, soit de les dépister dans le même hôpital, dans un coin différent de l'urgence, mais les urgences ont été conçues pour pouvoir justement régler ces problèmes-là. Si les gens sont pas très malades, c'est-à-dire qu'ils sont pas... ils n'ont pas de symptômes de difficulté à respirer ou comme vous l'avez décrit, les gens ne sont pas comateux ou quoi que ce soit, à ce moment-là, ils peuvent toujours aller sur les différents sites web du gouvernement et voir où se trouve un centre de dépistage proche de chez eux et en respectant bien sûr tous les moyens de protection, c'est-à-dire vous n'allez pas là-bas en transport en commun, vous essayez de porter un masque évidemment, vous essayez de minimiser les contacts avec les autres, etc. Donc, soit l'urgence pour les gens qui ont vraiment des problèmes, je dirais sérieux, surtout s'ils ont des problèmes respiratoires ou des problèmes sous-jacents, ou je dirais à la limite, dépendamment de où vous habitez au Québec, ben, on va vous donner de l'information. Si vous êtes dans telle région, on va vous dire il y a tel centre de dépistage à telle place, etc. Il faut dire que comme le nombre de cas a baissé, le nombre de centres de dépistage est plus petit que ce qu'il était auparavant, mais ça existe et c'est quand même relativement facile d'accès.
Bien. Dr. Carl Weiss, microbiologiste, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal et ancien collègue pendant 3 ans à une émission. Merci beaucoup.
Merci Marie-Claude, ça me fait plaisir.
À la prochaine. Au revoir. On va s'arrêter maintenant et après la pause... Ah non, il n'y a pas de pause, c'est vrai, on n'a pas de pause. Ah ben, il est 16h19 et puis on va parler cinéma.